Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les multiples rebondissements de la dernière présidentielle nous incitent à être particulièrement prudents. C'est donc au conditionnel qu'il convient d'annoncer que le 18 novembre prochain, Christophe Castaner devrait être élu au poste de délégué général de La République En Marche, tandis que le 10 décembre, Laurent Wauquiez ne devrait pas avoir besoin d'aller au second tour pour prendre la présidence des Républicains. Alors, le suspense est néanmoins réduit. Pour le premier, la bénédiction d'Emmanuel Macron est un précieux sésame. Pour le second, les candidatures concurrentes ne semblent être là que pour mieux valider la sienne. C'est ce qui s'appelle verrouiller un scrutin. Pour les éditorialistes politiques, ce sont des signes qui ne trompent pas. Les vieilles méthodes sont de retour. La fidélité au chef, la discipline de parti l'emportent à nouveau sur la diversité des opinions et le débat interne. Comme si la promesse d'un profond renouveau de la vie politique, de celles et ceux qui la font, mais aussi de la façon dont ils la pratiquent, comme si cette promesse n'était plus qu'un lointain souvenir. Alors, la politique se fait-elle autrement ? Eh bien, c'est la question que nous avons choisi de poser ce soir et de la poser non pas justement à des éditorialistes politiques, mais à des observateurs de cette vie politique. À commencer par vous, Sandra Laugier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié il y a quelques jours de cela avec Albert Augien aux éditions La Découverte Anti-démocratie, je dis quelques jours, quelques semaines, enfin voilà, c'était à la rentrée. Je rappelle que vous avez fait partie de l'équipe de campagne de Benoît Hamon et vous étiez chargé de réfléchir justement aux questions de démocratie, notamment. Pour discuter avec vous, Mathieu Petithomme, bonsoir. Maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes notamment spécialiste de politique comparée. Vous avez participé il y a quelques jours à un colloque à Dijon, je le cite parce qu'on est en plein dans notre sujet de ce soir, la politique autrement. Innovation citoyenne et défiance partisane. Et puis troisième invité, il est en duplex des studios de France Bleu Brésisel à Quimper, c'est Philippe Blanchet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociolinguistique à l'Université Rennes 2, membre de la Société d'études des langages du politique. Et vous avez publié, vous c'était au mois de mai dernier chez Textuel, Les mots piégés de la politique. Alors dans mon introduction, j'ai évoqué uniquement des cas de politique française, mais si vous en êtes d'accord, j'espère que oui, on va plutôt commencer par l'actualité politique espagnol, d'autant que Mathieu Petithomme, vous avez travaillé sur les nouvelles formes d'engagement politique en Espagne. Est-ce que, à votre avis, ce à quoi on assiste aujourd'hui s'inscrit dans cette logique des nouvelles formes d'engagement politique ?
Alors, sur l'indépendantisme, par exemple, en Catalogne, alors au-delà du commentaire des faits et gestes de Madrid ou de Barcelone, ce qu'on peut dire, il y a deux choses. Tout d'abord, je pense que l'indépendantisme s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de l'idée de l'émancipation. Il y a une sociologue catalane qui s'appelle Marina Subirats qui parle notamment d'une nouvelle utopie disponible. Et ça, c'est tout à fait important en politique parce que justement, il faut des utopies, des idéaux qui permettent d'agréger en fait des individus dans une lutte collective. Donc si l'indépendantisme est en vague d'une certaine manière au sein d'une certaine frange, bien évidemment la société catalane, hein, même s'il n'est pas complètement majoritaire, mais il y a un rôle important. C'est d'abord pour ça, parce que les indépendantistes font de la politique. Ça, c'est un premier point. Et notamment, il est assez en vogue chez les jeunes, notamment, il y a un clivage générationnel. Hein, et ça aussi, ça nous dit quelque chose de ces nouvelles formes d'engagement.
Et on pourrait faire un parallèle avec ce qu'a représenté, par exemple, Podemos, cette promesse de renouvellement, justement, de la façon de faire de la politique.
Bien sûr. Alors, très rapidement, juste deux points. Par exemple, on voit qu'en Espagne, les nouveaux partis politiques, il y a un clivage générationnel. Hein, si on schématise, Podemos est très populaire chez les jeunes issus des milieux populaires, et le nouveau parti libéral Ciudadanos, qui est plutôt centriste, est plus populaire chez les jeunes issus de classes moyennes, c'est-à-dire il y a un clivage de classe entre ces deux partis, mais plus généralement il y a un clivage entre eux et les autres formations politiques. Et l'indépendantisme en Catalogne, pour terminer, lui répond dans le contexte catalan à cela, séduit beaucoup les jeunes et nous montre finalement le retour aussi d'une forme d'identité en politique, parce qu'en politique il n'y a pas que des arguments rationnels, des chiffres, il y a aussi l'identité.
Donc une séquence intéressante à observer, Sandra Laugier, du point de vue justement des formes que prennent aujourd'hui la démocratie et la pratique démocratique.
Alors tout à fait, d'abord Podemos, hein, si on revient déjà un peu en arrière, ça a été vraiment le premier exemple d'une forme de vie démocratique mise en œuvre de façon horizontale dans un mouvement d'occupation, c'est-à-dire que c'était un mouvement qui créait en fait, un modèle politique. Et je crois que ça a été quelque chose de très, très intéressant, d'autant plus que ça a eu un débouché donc vers le pouvoir. Après, pour l'indépendantisme, je crois que c'est aussi quelque chose qui est vraiment passionnant à observer en ce moment, dans la mesure où, dans un mouvement populaire, où donc des citoyens, citoyennes veulent en fait reprendre leur sort en main, c'est vraiment la base de la démocratie, c'est ce qu'on voit un peu partout, donc c'est passionnant à voir. Après, je pense que ce mouvement peut aussi avoir des aspects antidémocratiques, pour reprendre notre titre, Albert Auger et moi, dans la mesure où c'est aussi un mouvement qui veut peut-être imposer quelque chose à non seulement toute la Catalogne, mais aussi peut-être toute l'Espagne, à partir d'une majorité très, très incertaine. Et du coup, on peut se demander, là, si on est vraiment dans les aspirations démocratiques telles qu'elles se développent aujourd'hui dans toutes sortes de nouveaux mouvements.
Mais c'est un paradoxe qui est justement très, très intéressant à observer. C'est-à-dire, effectivement, des revendications démocratiques, mais qui peuvent être jugées antidémocratiques par ceux qui s'y opposent. Est-ce que la démocratie, par exemple, Philippe Blanchet, ça pourrait faire partie des mots piégés de la politique, c'est-à-dire qu'on peut utiliser finalement de manière plus complexe qu'on ne l'imagine.
Ah oui, ben là on a un excellent exemple, hein, parce que chacune des deux parties s'appuie sur un argument de démocratie en lui donnant un sens différent qui à chaque fois est au service de son projet ou de ses intérêts.
Oui, qui est effectivement compliqué justement à comprendre, peut-être d'ailleurs du point de vue qui est le nôtre, c'est-à-dire de Français qui sommes empreints d'une culture jacobine. Philippe Blanchet, est-ce qu'il y a aussi la distance qui fait que les mots peuvent prendre un autre sens?
Bon, d'abord pour l'affaire catalane, l'un des problèmes, ça serait qu'il faudrait pouvoir en juger sur les discours tels qu'ils sont produits dans les langues en question et pas à travers le filtre des traductions. Mais une chose est certaine, effectivement, l'une des notions qui est en jeu, c'est la notion d'État. Et il est clair que, y compris dans les discours en écho qui sont produits en France, on voit bien qu'il y a là une notion qui est une notion quasi religieuse, on touche à un tabou, et donc le simple fait de remettre en question l'organisation d'un État ou les frontières d'un État, ça touche profondément par derrière à toute une conception, stabilisée ou pas, d'un certain ordre du monde.
Sandra Laugier, je vous voyais approuver ce que dit Philippe Blanchet.
Oui, tout à fait. Je crois que le sens du mot démocratie a été vraiment transformé, en fait, tous ces derniers temps, alors que, en fait, tout le monde va revendiquer la démocratie, hein, bien sûr. Hein. Personne ne va se dire contre, y compris les pires ennemis de la démocratie, en fait. Donc, ça fait partie des mots piégés de ce point de vue-là. Et ensuite, la démocratie, effectivement, il y a ce premier sens qui va être lié à l'État, c'est-à-dire démocratie comme un système institutionnel avec des votes, un calendrier électoral, bon, tout ce qu'on a vu l'an dernier en France, etc. Et puis cette année, plutôt pas l'an dernier. Et puis, ce nouveau sens qui est cette forme de vie qui émerge de pratiques et des revendications, en fait. Et donc, on a deux sens qui, en réalité, sont assez divergents et donc sur lesquels les politiques vont souvent jouer un peu en les croisant. Et donc de ce point de vue-là, je crois que il y a vraiment un sens de la démocratie qui va émerger des mouvements, des actions et qui donne vraiment une dynamique à la vie démocratique. Et donc la question est de savoir comment en fait on arrive à l'articuler, à faire cet aller-retour entre la démocratie, l'État, les institutions telles qu'elles sont constamment rappelées, revendiquées, et puis ce dynamisme qui vient de la base et des mouvements.
Mathieu Petithomme.
Oui, alors tu sais, moi ça me fait penser à l'idée que, bon voilà, la démocratie, on le sait bien, elle fonctionne avec une logique de majorité-minorité, et donc il faut dégager une majorité, mais en même temps il y a un cadre qui est l'état de droit, le respect des libertés fondamentales de chacun. Donc je suis tout à fait d'accord avec l'idée que, par exemple, dans le cas catalan, l'indépendantisme, il a une composante illibérale au sens où on peut pas, par exemple, dire du jour au lendemain on crée un état et on enlève le droit d'une partie des citoyens à être espagnol, et on les oblige à devenir d'une certaine manière catalan. Donc la démocratie, c'est ça, ça, c'est dégager des majorités, mais en respectant les droits de la minorité. Après, la manière de, avec laquelle on l'organise est différente selon chaque société. Alors, autre élément qui est important à mon sens, c'est qu'il y a plusieurs conceptions de la démocratie. On peut avoir une vision de la démocratie minimaliste, à la Schumpeter, c'est-à-dire une lutte concurrentielle pour l'accès au pouvoir, où on va sélectionner des élites. Ça serait ce que nous dit Emmanuel Macron quand il dit la démocratie n'est pas la rue, on a voté, silence dans les rangs, entrez chez vous. Mais on peut avoir aussi une conception plus avancée de la démocratie. On considère certes qu'on a des processus électoraux qui sont nécessaires, mais qu'entre une élection et une autre, la société civile doit jouer son rôle, les mouvements sociaux ont le droit de protester, les citoyens, les intellectuels, et donc on a une vision beaucoup plus avancée, beaucoup plus participative. Et là, ça nous amène à l'idée aussi que les partis politiques, par exemple aujourd'hui, jouent-ils réellement ce rôle? Permettent-ils de faire émerger de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux débats en leur sein? Et on voit bien qu'ils ne le font que très imparfaitement.
Oui, je crois que cette question de majorité-minorité, elle est très importante, d'autant que dans le cas de l'Espagne ou en France, d'ailleurs, on a quand même une minorité qui est importante. Hein, donc, et je crois que ce qui est essentiel maintenant dans la conception de la démocratie, c'est de considérer que quand une majorité a un pouvoir, en fait, elle ne doit pas agir d'une façon qui puisse nuire. Donc, c'est un principe moral minimal, hein, finalement. C'est aussi ne pas nuire, qui puisse nuire aux intérêts donc de cette minorité et donc à la vie des autres personnes qui n'ont pas en fait voté. Et je crois que ce principe-là, il est très central vraiment dans la vie démocratique, dans les revendications démocratiques, et il n'en est pas forcément tenu compte, que ce soit donc dans le contexte espagnol ou dans le contexte français.
Alors justement, reprenons le contexte français, et puis puisque vous nous avez amené sur ce terrain avec Emmanuel Macron, Mathieu Petithomme, mais on pourrait multiplier les exemples aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a quelques mois, on avait quand même cette promesse d'un renouvellement du personnel politique. Bon, ça, on peut dire qu'on y est quand même plutôt arrivé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, énormément de nouveaux députés. Les ministres, la plupart du temps, quand même, on ne les connaissait pas. Ce n'étaient pas des personnalités absolument publiques.
Certains un peu trop,
quand même, nous dit Sandra Logier. Enfin bon, globalement, on ne peut pas dire que c'était des vieux routiers de la politique, des gens qui avaient déjà été dans des ministères. Mais voilà que pointe en cette rentrée dans les éditoriaux notamment des pratiques qui seraient un retour à d'anciennes pratiques. Par exemple, alors si on prend le patron de Libération, Laurent Geoffrin, qui voyait dans l'interventionnisme d'Emmanuel Macron pour imposer a priori Christophe Castaner au poste de délégué général de la République En Marche, un retour du bonapartisme. Alors la question du bonapartisme, puisqu'on a un linguiste, hein, je vais vous interpeller assez régulièrement quand même justement sur des thèmes un peu forts. Est-ce que ça vous semble, le bonapartisme par exemple, une des figures avec laquelle il est difficile de se dissocier aujourd'hui dans la vie politique française, Philippe Blanchet?
C'est difficile de répondre à une question comme ça parce que il faudrait, une fois encore, hein, il faudrait savoir ce qu'on cache sous les usages de ce mot-là. Si on veut dire par là une forme de prise de pouvoir abusif à partir d'une base historique précédente démocratique. En l'occurrence, il est probable que le terme soit relativement exagéré là, en ce moment. Après, si on lui donne une interprétation métaphorique comme toute forme de prise de pouvoir, dans ce cas-là, ou disons de prise de pouvoir un petit peu autoritaire, dans ce cas-là, je crois que ça marque systématiquement tous les gens qui arrivent au pouvoir, parce qu'ils échappent rarement à ce syndrome d'un exercice exagéré de l'autorité.
C'est cette fameuse impossibilité d'exercer le pouvoir comme un président normal, Mathieu Petithomme.
Alors moi, je pense que en fait, le débat d'aujourd'hui, c'est le débat d'une certaine manière sur la professionnalisation de la vie politique. Si on regarde le renouvellement en termes concrets dans la dernière Assemblée nationale, on a eu en effet beaucoup de députés qui ne sont pas représentés, à peu près 2/3 de nouveaux entrants. On a une féminisation de l'Assemblée nationale qui tend à se renforcer. Donc tout ça pourrait laisser penser à un changement important.
Ça, c'est plutôt bien.
On ne peut pas le nier, c'est plutôt bien. Mais pour autant, en fait, le vrai débat, c'est voilà. A-t-on besoin d'une classe politique professionnelle ou pas? Et si on en a besoin, à partir de quel moment ça devient nocif pour la démocratie d'avoir des gens qui en fait ne font que de la politique? C'est le débat classique de Max Weber dans Le Savoir le politique, vivre pour la politique, c'est-à-dire militer, défendre des idées, une cause, ou vivre de et par la politique. Or, le problème, à mon sens, est qu'il faut comprendre qu'il faut des professionnels de la vie politique, parce que sinon, la politique, ça reste un métier, et donc, voilà, il y a des logiques qu'il faut comprendre et pour mieux agir. Mais en même temps, si on a des gens qui ne font que de la politique toute leur vie, au bout d'un moment, ils deviennent déconnectés des citoyens ordinaires. Et puis, se crée un effet, si vous voulez, de captation du pouvoir par une oligarchie, puisqu'en fait, les citoyens ont l'impression que c'est toujours les mêmes qui sont là. Il n'y a pas vraiment de renouvellement.
Donc, sauf faut arriver on peut aussi peut-être, Mathieu Petithomme, on peut peut-être aussi observer un phénomène inverse, Mathieu Petithomme, c'est-à-dire que s'il y a peu de professionnalisation, comme en tout cas ça a été, on a pu l'observer pendant l'été avec un certain nombre de couacs au Parlement, en particulier à l'Assemblée nationale, on peut aussi y voir la possibilité pour ceux qui exercent le pouvoir et en l'occurrence le pouvoir exécutif, d'affirmer leur autorité beaucoup plus facilement. C'est-à-dire, c'est peut-être plus compliqué d'avoir des contre-pouvoirs quand on a une faible professionnalisation de la politique. Donc c'est quoi ? C'est une question de dosage ?
Bien sûr, mais l'idéal, si vous voulez, c'est le dosage d'avoir un peu des deux, c'est-à-dire de la professionnalisation, mais en même temps des mécanismes qui permettent de renouveler. Et donc là, c'est par exemple le débat sur la limitation du cumul des mandats, hein, parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'il y a des changements, mais on a limité le cumul que pour les députés sénateurs. Il y a encore d'immenses possibilités de cumul. Or, on pourrait dire, non, ça, c'est pas acceptable. Et de même, la limitation du cumul de la durée des mandats dans le temps. Parce que c'est ça qu'il faut faire si on veut pouvoir renouveler, c'est-à-dire, vous faites de la politique pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais c'est pas quelque chose que vous faites à vie, franchement.
Qu'est-ce que vous pensez du dosage actuel, Sandra Laugier ?
Alors, je crois que ce qui était intéressant dans le mouvement En Marche, c'est et l'arrivée de tous ces nouveaux députés, c'est qu'ils surfaient un petit peu sur cette demande démocratique qu'on a analysée depuis quelques années, en fin de compte, avec quand même une sorte de d'action venue plus ou moins de la base, une demande citoyenne. Hein. Donc, en fait, Emmanuel Macron a profité aussi de ces nouvelles formes de politique auxquelles nous nous intéressons. Et c'est cela aussi qui a donné cette mobilisation et cette assemblée. Et c'est ça aussi le bon côté du renouvellement, de la féminisation qui est quand même vraiment un événement, hein, si on se souvient quand même de l'État.
Mais est-ce que ce bon avant, côté, il résiste à l'examen six mois après, disons, ou à peu près
mais... De toute façon, il résistait pas même à l'examen quelques jours après, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup de société civile, mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la société civile ? C'est des associations, c'est vraiment des mouvements horizontaux qui travaillent en fait à lutter contre des inégalités, des difficultés dans la vie des gens. Donc c'est pas du tout en réalité donc des élus qui sont plus ou moins recrutés sur CV parce qu'ils ont un profil en fait de réussite. Et c'est effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ont en fait une réussite sociale, professionnelle, ou qui se voient comme tels, ou qui y aspirent, et c'est cela qui va définir en fait leur positionnement politique plus qu'une professionnalisation, un profil de politique professionnelle. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on avait traditionnellement, puisqu'avant on avait des politiques professionnelles qui, du coup, en tiraient une forme de réussite, alors que là on a la réussite qui est posée comme norme, et puis à partir de là, on a une forme de reconnaissance avec un poste politique, mais c'est vrai que, comme vous le disiez, cela donne, et là on peut peut-être être déçu, par rapport à l'aspiration qui a conduit en fait à cette assemblée, on a en effet une assemblée qui manque complètement de distance et d'esprit critique par rapport au gouvernement. Et de ce point de vue-là, je pense que par exemple pour Castaner, le côté... Enfin moi je dirais même pas que c'est bonapartiste, c'est complètement normal et c'est le président qu'il mérite en fait, puisque c'est vraiment un groupe qui est de toute façon au service du président.
Donc oui, de toute manière, le système institutionnel français fait sans doute que c'est compliqué de sortir de cette culture du chef. Philippe Blanchet, on parle d'Emmanuel Macron, mais on pourrait parler d'un certain nombre d'autres leaders politiques, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, qui s'apprête à prendre la tête des Républicains et qui dit ceci d'ailleurs, lui fait campagne vraiment justement sur ce thème de l'autorité restaurée. Il n'est pas du tout dans le côté la démocratie participative, je ne suis pas sûr qu'il y croit beaucoup. Et il fait référence à Jacques Chirac en disant, comme le disait Chirac, un chef c'est fait pour cheffer. Et ce foutoir généralisé dans lequel on est en ce moment, croyez-moi, si jamais je m'occupe de la famille des Républicains, c'est fini, on va y remettre de l'ordre. Un chef c'est fait pour cheffer. Philippe Blanchet.
Oui, ce qui est intéressant, c'est On a vraiment l'impression d'assister à des débats de gens qui essayent de marquer des différences entre eux, alors que quand on analyse avec un peu de recul le discours qu'ils tiennent, on se rend compte que tous empruntent les mêmes chemins pour tenir les mêmes types de discours qui renvoient au fond à une forme d'idéologie générale partagée. Alors bon, il y a des petits mots d'esprit, il y a la reprise ou l'invention d'un chef, c'est fait pour cheffer. Bon, c'est très bien qu'on joue avec la langue, mais c'est uniquement des stratégies de masquage du fait que par derrière, les discours s'appuient sur les mêmes présupposés. Et quand on écoute les discours d'Emmanuel Macron ou d'Édouard Philippe, on entend exactement les mêmes soubassements idéologiques
Entre Macron et Édouard Philippe
précédemment.
Parce que j'avais compris que vous faisiez une comparaison entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Heureusement qu'il y a quand même quelques points communs entre deux, entre le chef de l'État et le Premier ministre.
C'est par rapport à tous les autres.
Mathieu Petithomme.
Alors, je pense qu'il y a un point important sur cette promesse de renouvellement par la démocratie participative, par exemple, ou des partis d'un nouvel ordre. Je pense qu'il faut revenir sur ce point, parce que c'est tout à fait intéressant. Et c'est notamment la critique qu'on pourra peut-être faire, à un moment donné, au mouvement En Marche, qui s'est quand même construit sur cette idée-là, de dire, faisons revenir la société civile, etc. Or, on voit bien que le parti politique, déjà, est-ce que ça en est vraiment un? Et puis, même si ça en est un, il n'est pas du tout démocratique, comme la plupart des autres partis. On peut parler du mouvement gazeux de Jean-Luc Mélenchon, où en fait, il n'y a pas vraiment de représentants locaux dans les départements, dans les territoires. Bon, on a une petite élite là, parisienne, hein, d'une dizaine, quinzaine de personnes, et puis ensuite, eh bien, c'est le fait du prince, les gens sont sur les listes, sont élus en fonction eh bien, des choix qui sont pris à Paris, et donc on voit que classiquement, en fait, les partis, si je résume, ne sont pas des organisations démocratiques. On le sait depuis Robert Michels, la loi des reins de l'oligarchie, parce qu'il y a un impératif de stratégie électorale, gagner les élections. Mais le problème, c'est ce que les gens veulent quand ils s'engagent dans un parti, c'est justement cette promesse démocratique. Donc le problème, c'est d'arriver à concilier les deux. Et on voit bien que y a beaucoup d'organisations politiques qui, quand ils font campagne, se créent sur cette promesse, mais qu'ensuite, on voit très bien qu'elle n'est pas véritablement au rendez-vous dans leur fonctionnement interne.
Sauf qu'objection, Mathieu Petithomme, vous dites les partis ne sont pas démocratiques, mais La République En Marche n'est pas un parti, en tout cas elle ne se revendique pas comme telle. C'est un mouvement. La France Insoumise se revendique comme un mouvement.
Oui, mais ça c'est de la communication politique. C'est de la communication politique. La réalité, c'est que ce sont des partis qui ont des associations de financement, qui ont de l'argent, donc ça reste de la communication. De la même manière qu'on peut dire on a un renouvellement. Allez-y.
Alors Sandra Logier n'est pas certaine.
Je pense que malgré tout, que ce soit la France Insoumise ou même un peu La République En Marche, malgré tout ce qu'on peut en observer pour la composition sociologique, je crois qu'ils ont quand même vraiment essayé, ils ont un peu surfé sur et également évidemment en Italie, en Espagne, on a des partis mouvementistes qui ont fonctionné et ont réussi en rejetant en fait le système des partis. Je crois pas qu'on puisse dire le contraire, et c'est quand même le système des partis qui a été complètement dégagé, hein, pour parler comme Mélenchon en juin.
Mais est-ce qu'un mouvement comme Podemos par exemple n'a pas été rattrapé par la logique des partis, Sandra Logier?
Alors même Podemos, même Syriza, bien entendu, ont été rattrapés parce qu'il y a eu une logique quand même, et heureusement, de prise de pouvoir. Hein, mais pour ce qui est de la situation française, là, c'est vrai qu'on a eu des mouvements, donc des mouvementistes anti-partis qui, contrairement à Podemos et Syriza, se sont très vite organisés de façon complètement verticale avec donc un chef tout puissant, hein, que ce soit donc Macron et même Mélenchon, hein, d'une certaine façon, par ailleurs avec le retour d'une idéologie antidémocratique, puisque c'est l'idée que les citoyens de toute façon sont pas capables de décider tout seuls, hein, tout seuls en tout cas eux-mêmes, elles-mêmes, de leur sort. Et donc, il y a tout un double discours, hein, et je crois que c'est effectivement ce que Mathieu et Philippe disaient. Il y a tout un discours pour la démocratie qui masque, en fait, une espèce de rejet donc de la volonté du citoyen, le rejet de la rue, c'est le bordel, etc. De la compétence politique des citoyens. Et on revient, en fait, à une compétence politique qui est réservée, en effet, à, alors même plus à à des politiques, mais à des experts. Et donc, c'est cela, en fait, peut-être le problème aujourd'hui de l'antidémocratie.
Sur la question du mouvement ou du parti, écoutez ce qu'en dit Jean-Luc Mélenchon. Enfin, écoutez, je vais le prendre dans ma voix parce que c'est une interview qu'il a donnée à l'hebdomadaire Le 1. Et lui, il dit donc à propos de la France... Non, je ne vais pas me lancer là-dedans, je crois pas. À propos de la France Insoumise, il dit « Nous ne voulons pas être un parti. Le parti, c'est l'outil de classe. Le mouvement est la forme organisée du peuple. Je sais que ce n'est pas évident à comprendre pour les seigneurs de la politique qui trimballent leur vieux scénario des années 60, mais le but du mouvement de la France Insoumise n'est pas d'être démocratique, mais collectif. » Et c'est là qu'il dit « Voilà, on n'est ni un mouvement vertical, ni un mouvement horizontal, mais on est un mouvement gazeux. » Mouvement, parti, Philippe Blanchet, est-ce que c'est une distinction importante pour vous ?
Ça peut être une distinction importante. La question, c'est d'analyser les significations que ça prend effectivement dans les actes. Il faut d'une certaine façon confronter le programme de sens des termes qui sont employés avec leur mise en œuvre effective. Ça peut du coup être au final exactement synonyme, ou ça peut aboutir à des, renvoyer à des modes de fonctionnement très différents les uns des autres. Le problème que tous ces gens ont à prendre en compte, c'est qu'ils sont obligés de fonctionner à l'intérieur d'un cadre préétabli qui est un mode d'organisation de la société, qui est lui-même organisé par des discours, avec une terminologie qui dit comment la société est catégorisée et organisée, et ils sont obligés de faire avec ce cadre-là tout en essayant de s'en démarquer. Donc ils sont en permanence pris entre l'impossibilité d'innover parce qu'ils sont obligés de fonctionner à l'intérieur d'un cadre existant et la volonté d'innover qui, d'une certaine façon, devrait les conduire soit au préalable, soit au final, à contester les cadres mêmes, à penser avec d'autres cadres et avec d'autres mots. Et alors du coup, voilà, ils essayent de jouer sur les deux en même temps et la distinction reste complètement floue à cause de ça.
C'est la volonté d'innover, Philippe Blanchet, ou c'est la nécessité d'innover ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne se montre pas comme une formation politique, comme un leader politique qui renouvelle, qui est dans le renouveau, qui est dans la réforme, est-ce que c'est des choses qui sont beaucoup moins, comment dire, audibles aujourd'hui, enfin moins performantes sur la scène politique ?
Le problème, c'est que effectivement, on disait tout à l'heure, le mode dominant, c'est le parti. Le parti a forcément une stratégie électorale, et même si c'est pas un parti, le système électoral fait que ça devient un parti. Je suis pas sûr qu'il y ait une volonté réelle d'innovation. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'observe des discours qui sont tenus, parce que moi, c'est mon entrée pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je me rends compte que, par exemple, j'ai suivi toute la campagne présidentielle, le seul candidat qui avait un discours qui était profondément organisé d'une façon alternative par rapport à tous les autres, c'était Philippe Poutou. Et il y avait toutes sortes de marques discursives de sa rupture avec les cadres imposés, y compris dans les interviews journalistiques, et sa volonté de faire exploser les cadres et de se décaler. À part ça, à peu près tout le monde s'est fondu dans les cadres existants, et ils peuvent difficilement faire autrement, parce que comme je le disais à l'instant, il faut qu'ils fassent avec pour réussir à s'y imposer.
Et au moment où vous évoquiez Philippe Poutou, Philippe Blanchet, Sandra Logie a levé timidement le doigt en disant « aussi Benoît Hamon ». C'est étonnant de votre part.
Ça, oui, j'ai entendu.
S'agissant de cette volonté d'innover, en tout cas, s'agissant de cette volonté de faire du nouveau, je ne sais pas si c'est quelque chose de sincère ou pas, mais on a l'impression que c'est un peu un passage obligé et que c'était quand même une promesse de la dernière présidentielle et des dernières législatives. Et à ce sujet, je voudrais encore faire une citation qui est tirée du dernier numéro de papier, qui est la revue de France Culture, justement avec en une « Pourquoi voulons-nous du nouveau ?» Et il y a un philosophe espagnol que vous connaissez peut-être les uns les autres, Daniel Innerarity, pardonnez-moi, voilà, qui dit « Plutôt que de tourner notre regard vers ce qui a l'air séduisant, c'est-à-dire vers ceux qui portent ce renouvellement, devrait peut-être tourner notre regard vers ceux qui se laissent séduire par cette nouveauté, par quelque chose dont la valeur réside dans l'absence de passé, quelque chose ne tourne pas rond pour que tant d'entre nous soient prêts à aller à un rendez-vous à l'aveugle. » C'est-à-dire, plutôt que de faire confiance à ce qui a peut-être malgré tout, malgré peut-être des problèmes et des erreurs faits ses preuves, on est aujourd'hui attiré vers vers la nouveauté, quitte à aller vers le n'importe quoi, en gros, Mathieu Petithomme.
Ah oui, non, mais on n'est pas aujourd'hui, on a toujours été, parce que la politique, c'est l'art de rendre possible l'impossible. Donc c'est là où il y a l'idée d'émancipation, de faire quelque chose pour la société, pour demain, pour remettre en cause des inégalités, remettre en cause des pratiques que l'on considère comme non démocratiques ou pas assez. Donc c'est l'essence même de la politique, le changement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, très souvent, on a des gens qui prêchent le changement en campagne électorale et quand ensuite on regarde leurs pratiques politiques réelles, on est assez déçu. Donc si vous voulez, c'est le débat sur voilà, statu quo, changement, et par rapport à ce qu'on
on
a dit...
On peut difficilement être élu si on prône d'autres
bien
choses
sûr,
que le changement.
Bien sûr, si on prône que... Voilà, donc c'est naturel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple, les mouvements sociaux prônent justement politisent un certain nombre d'enjeux de société sur le droit au logement, sur les inégalités, et donc c'est pour ça qu'ils ont un rôle social majeur. Pour autant, on voit bien qu'ils se heurtent au mur de la réalité, dans le sens où ils mettent sur agenda certains enjeux, mais par ailleurs, eh bien, tant qu'on n'a pas les manettes du pouvoir d'État, que ce soit au niveau local, régional, national, ce que l'on peut faire est quand même assez limité. Mais évidemment, on peut créer des collectifs autogérés, on peut faire de l'économie sociale et solidaire, mais les changements sociaux majeurs passent à un moment ou à un autre par la conquête du pouvoir d'État. Et c'est là, par exemple, la critique que l'on peut faire à l'extrême-gauche, qui, sur certains éléments philosophiques, eh bien, a raison de dire « oui, il faudrait tout changer », etc. Le problème, c'est encore faut-il créer des majorités pour pouvoir y accéder. Et donc le débat dans lequel on est aujourd'hui, c'est ça, c'est comment à la fois on reste en lien avec la société civile, les revendications des mouvements sociaux, ce que disent les intellectuels sur ce qu'il faudrait faire, le droit de pétition, les initiatives citoyennes, limiter le cumul des mandats dans le temps, la moralisation de la vie politique, etc., tout en ayant des partis et des élites qui jouent quand même ce rôle de justement médiateur entre la société et l'État.
Donc vous nous dites la structure des partis, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contourner aujourd'hui quand on veut changer les choses. Avant de redonner la parole à Sandra Logier, je voudrais vous faire écouter un court extrait d'Alain Juppé. Nous sommes fin juin dernier et le candidat malheureux à la primaire chez les Républicains réagissait justement à cette question du renouvellement. Pour lui, faire de la politique autrement, vous allez l'entendre, ça le fait bien rigoler.
Quand j'entends dire qu'on va faire de la politique autrement, ça me fait rigoler. On fait de la politique avec des gens différents, mais on fait toujours la politique de la même manière. Il n'y a pas 36 façons de faire. Il y a la façon autoritaire et dictatoriale, il y a la façon démocratique, et dans une démocratie, on fait toujours pareil. Il y a un gouvernement qui gouverne, il y a un parlement qui vote des lois, etc. Les partis auront un rôle à jouer. Cela dit, il faut qu'ils se régénèrent aujourd'hui, et qu'ils se régénèrent. Il y aura toujours des querelles de personnes, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est la vie de la politique, c'est la vie des affaires, c'est la vie de la société. Mais derrière tout ça, il faut clarifier une ligne politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la grande famille de la droite et du centre, il y a des sensibilités différentes.
Voilà, là, Juppé, fin juin sur la chaîne publique Sénat, hors du parti politique. Sandra Logier, point de salut.
Alors, bien entendu, on peut vraiment être en désaccord avec ce qui est dit là, puisqu'il y a en effet des nouvelles formes de politique, mais qui ont émergé justement en dehors de ce système politique qui est revendiqué comme absolument incontournable par Alain Juppé et d'autres. Donc il y a l'idée que la politique doit se faire dans un certain nombre de cadres et de principes et d'institutions, et si on sort de ce cadre, ça n'est pas possible. Et puis il y a l'idée que la politique, elle doit en effet émerger aussi de nouvelles pratiques, de revendications et de la volonté d'égalité qui est de plus en plus importante dans le peuple.
Sauf que regardez aujourd'hui, Sandra Logier, la façon dont on parle de la politique, de l'actualité politique, on n'a pas l'impression que ça ait quand même totalement vraiment tant changé que ça.
Justement, je crois que ce qui est clair concernant le gouvernement Macron, c'est que de toute façon, il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire que le vocabulaire de l'innovation, qui est aussi un vocabulaire technocratique, industriel, donc qui est valorisant.
Dans l'opposition, c'est pareil.
C'est quelque chose qui n'a pas changé. Dans l'opposition, c'est un discours aussi qui n'est pas forcément nouveau, parce que je crois que la nouveauté politique, elle vient, comme Mathieu le disait, par exemple des actions de terrain, en local, des pétitions et de toutes sortes de mouvements, justement, qui font la vie démocratique. Et je crois que, par exemple, un mouvement comme celui auquel on assiste en ce moment, de toutes les femmes qui s'expriment tout d'un coup pour dénoncer ce qui s'est passé en termes de harcèlement, ça, c'est un vrai mouvement démocratique, puisque ce sont des femmes qui vont prendre directement la parole au lieu de s'adresser à des associations de victimes ou à des mouvements féministes de femmes qui seraient plus plus présentable qu'elle. Et donc, je crois que des mouvements comme cela, c'est ça, en fait, qui va définir la vie démocratique. Tandis que si on reste dans ce modèle institutionnel, vous voyez très bien que très vite, on retombe dans un modèle où on a une majorité qui va considérer qu'elle peut imposer en fait son mode de pensée et de vie à l'ensemble d'une population, et ça réduit la démocratie à un pur rapport de force. Donc l'inverse de tout ce qu'on a essayé de développer ces dernières années, ce qui a été aussi prôné quand même pendant la campagne présidentielle.
Mais est-ce que, alors, restons sur cet exemple de cette manifestation démocratique à travers la prise de parole autour des violences sexuelles dont sont victimes les femmes. Est-ce que dans votre logique à vous, Mathieu Petithomme, ça veut dire que pour que ce mouvement démocratique ait une traduction politique, de toute manière, il n'y a pas d'autre choix que de passer par les structures traditionnelles ? C'est-à-dire pour le transformer en quelque chose de, je ne sais pas moi, d'efficace ?
Non, je pense que chacun a un rôle à jouer à son niveau. C'est-à-dire que la société civile a un rôle à jouer dans la politisation de ces enjeux, par exemple le harcèlement, ben voilà, le mettre sur la table, faire que ce soit un débat de société. Les intellectuels ont un rôle à jouer en parlant. Les politiques ont un rôle à jouer en adoptant des lois pour répondre à ces questions. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nos politiques agissent sous contrainte. Ils réagissent quand, voilà, les mouvements sociaux, la société civile, se sont emparés du sujet. Or, le problème, c'est que si on élit des gens pour agir politiquement, c'est pas juste sous contrainte, c'est justement pour anticiper, pour répondre aux problèmes d'avenir. Et le grand problème aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a un discrédit très fort des partis, c'est qu'ils ne jouent plus ce rôle-là. Ce sont des écuries de sélection de leaders politiques. Les Américains parlent de la politique comme course de chevaux, c'est-à-dire faut dans chaque séquence être devant dans les sondages, etc. Or, sur les vrais sujets de société, il manque d'arrière-fond culturel, de réflexion, et par exemple, on n'en a pas encore parlé, notre débat le montre, sur l'idéologie, par exemple. Si on parle de changement, de renouvellement, il faut parler de changement idéologique. Or, aujourd'hui, on voit bien que les partis politiques n'ont pas vraiment d'idéologie clairement identifiée, ou s'ils l'ont, elle n'est plus en phase avec les changements sociaux réels, que ce soit à gauche ou à droite. Donc, il y a un vrai problème de vacuité idéologique, de telle forme que on fait des campagnes de communication. Bien sûr, c'est la faute des partis. Qui ne jouent plus sur
le rôle.
C'est pas que la faute des partis, bien sûr. Mais c'est quand même aussi un peu leur faute, parce que c'est une de leurs fonctions fondamentales, qui ne jouent plus autant qu'auparavant.
L'idéologie, ça fait partie des disparitions du champ politique aujourd'hui, Philippe Blanchet ?
Je crois pas. Ça dépend ce qu'on appelle idéologie. Si c'est au sens usuel du terme, d'un corps doctrinal de pensée pour organiser la société, c'est possible. J'en suis pas tout à fait sûr. Si on le prend au sens profond que développait par exemple Gramsci, qui consiste à dire c'est un système de croyance en un mode d'organisation qu'on naturalise et auquel on attribue le fait qu'il aurait aucune autre alternative et que tout le monde doit y croire. Alors là, par contre, il y a des idéologies qui sont encore très très ancrées, y compris dans la société française. De ce point de vue-là, par exemple, l'idéologie nationale ou l'idéologie linguistique française que j'étudie de près, ça bouge pas du tout. Macron dit exactement les mêmes choses que ce que disaient les précédents, et la notion de bon sens qu'utilise le Premier ministre renvoie exactement à l'idée qu'il n'y a pas d'alternative et qui est vraiment un des marqueurs du discours idéologique. De la même façon, là, l'extrait de Juppé est très intéressant. Juppé, il dit soit c'est la dictature, soit c'est la démocratie. Alors c'est intéressant parce qu'il essaye de nous faire croire que du moment qu'on est en démocratie, il n'y aurait pas de dictature. Mais cette opposition est évidemment une forme de manipulation. Il y a des dictatures démocratiques et il y a des procédés dictatoriaux dans une démocratie, comme dans la démocratie française. D'ailleurs, les ordonnances Macron et notamment l'intégration dans le droit ordinaire des mesures qui étaient réservées à l'état d'urgence, c'est typiquement des mesures attentatoires aux droits fondamentaux et pourtant c'est démocratique. Donc c'est là qu'on voit comment, en opposant les mots, en jouant avec les mots, on nous fait avaler des choses, une structuration de l'organisation du champ politique qui est parfaitement contestable et parfaitement discutable.
Et c'est pour ça qu'il faudrait avoir des linguistes à chaque fois qu'on fait des débats politiques. On est presque au terme de cette discussion. Et si vous êtes d'accord, on va laisser peut-être Sandra Laugier conclure en répondant. Alors vous avez moins d'une minute à la question qu'on posait ce soir finalement. Est-ce que la politique se fait autrement ?
Alors, je pense que la politique ne se fait que autrement, et que, en effet, on parlait d'idéologie. Je crois qu'on a vraiment besoin d'une refonte idéologique. Je crois que c'est peut-être cette absence aussi de refonte idéologique au Parti socialiste qui l'a conduit là où il est maintenant, que je ne décrirai pas. Mais en tout cas, je crois que ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que la démocratie la politique est quelque chose qui existe, qui est extrêmement vivant, mais qui émerge en fait de pratiques qui ne sont pas du tout forcément dans les institutions telles qu'elles sont décrites là. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut quand même dire qu'il y a une contradiction entre démocratie et dictature, hein, malgré ce que dit Philippe Blanchet, hein, puisque la véritable démocratie, c'est justement cette aspiration à plus de liberté, plus d'égalité pour tous et toutes.
Et bien voilà, ce sera donc la conclusion pour ce soir. Merci beaucoup Sandra Laugier. Je rappelle votre ouvrage « Antidémocratie » aux éditions La Découverte, ouvrage que vous avez coécrit avec Albert Augien. Merci à Philippe Blanchet, à nos camarades de France Bleu Brésil qui assuraient le duplex ce soir, « Les mots piégés de la politique chez Textuel ». Merci Mathieu Petithomme. Il y a un ouvrage vers lequel on peut vous renvoyer.
« Contester en Espagne » par exemple.
« Contester en Espagne », voilà, que je n'ai pas cité. Qui est chez quel éditeur ?«
Démopolis ».
Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci également à toute l'équipe du Grain. On se retrouve demain, ça vous le savez, Arnaud Laporte.
Je le sais, Hervé Gardette. Vous savez que dans 3 minutes, une dispute spectaculaire par plastique, une trompe de jour, aura lieu. Et le Grain à moudre demain.
La Nouvelle-Calédonie est-elle prête pour l'autodétermination? Puisque dans un an, il y a un référendum.
Mais oui, je voterai comme à chaque fois. J'ai voté au précédent référendum sur la Nouvelle-Calédonie.
Je suis pas sûr présent. Que vous ferez partie du corps électoral hein, l'an non, prochain. Non, enfin, non, on en rediscute demain.
J'écouterai demain. Vous avez raison. Merci beaucoup. Hervé Gardette, 19h. Les titres de l'actualité avec Antoine Maret.